J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom? Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on? Pourtant c'est fou ce que j'aimais l'appeler par son nom. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien.
Ouh là là, proc, vous êtes café, monsieur Serge Rezvani.
Oui, oui, plutôt. Mais c'est l'Orient, ça. Le thé, le café. Voilà.
L'auteur-compositeur des chansons cultes de Jeanne Moreau, entre autres, c'est lui, c'est Serge Rezvani. Il me reçoit dans son appartement, qui est aussi son atelier d'écrivain, de poète, de peintre, de dramaturge. Un album de reprise de ses chansons inédites, Chansons pour Lula, est sorti ce printemps. Et ce 14 juillet, au Festival d'Avignon, les artistes qui ont participé à ce disque, comme Dominique A ou Philippe Catherine, monteront sur scène avec lui pour une soirée France Culture, tout en hommage à l'artiste de 95 ans.
À vrai dire, je ne cherche pas à réussir une chanson. Et même toutes mes chansons ont été créées bien avant qu'elles aient dépassé le cercle de ma vie. Ces chansons faisaient partie de ma vie intime, surtout, et mes amis. Et puis, à partir du moment où elles sont devenues ce qu'elles sont, elles m'ont échappé et elles sont plus aux autres qu'à moi. Ou bien on est créatif, ou bien on est un artisan. Alors si on fait un objet, justement, de commande, on le refait toujours bien. L'artisan refait toujours la même chose parfaitement. Mais quand on se risque à être artiste, j'aime pas beaucoup ce mot, mais il n'y en a pas d'autre. Quand on se risque dans l'art, on se risque vraiment d'être insatisfait, d'être presque malheureux parfois. Mais je vous dirais franchement que je brûlerais tous mes tableaux aujourd'hui, je serais soulagé. Je comprends très bien Kafka qui a demandé à Max Brod de brûler tous ses manuscrits. Il arrive un moment où on comprend qu'on a peiné toute une vie pour finalement ne faire que ça. Sauf que ce que vous renvoie les autres est très réconfortant et très chaleureux, disons, voilà.
Est-ce que vous, c'est la même chose? Est-ce que pour vous, chaque chanson renvoie à un moment de votre vie, à des rencontres, et que c'est intimement lié à ces événements de la vie?
Vous donnez deux réponses. La première, c'est qu'en effet, quand je vis avec une femme que j'aime et que je crée ces chansons, c'est évidemment... Tout ce que j'ai créé, c'est pour la séduire. Lula, ça a été 50 ans de quelque chose qui est indicible, et donc je n'arriverai jamais à comprendre comment j'ai pu rencontrer une femme d'une telle qualité, d'une telle beauté, et qui m'a fasciné pendant toute une vie. Donc je ne pourrais pas dire que je me souviens chaque chanson que j'ai créée pour la séduire. Par contre, je pense que les chansons marquent le temps, ce que vous venez de dire, et c'est une restitution du temps qui est absolument incroyable. Moi, il y a des chansons pendant la guerre qui m'ont accompagné, ou quand j'étais jeune, ou mes premiers amours, et on est bouleversé de réentendre une chanson qui ne vieillit pas, qui est comme un parfum qui revient. Mais dans la création, je ne peux pas dire qu'elle fait partie de la création, et la création, c'est vraiment un moment très confus. Je ne crois pas que je pourrais dire à quel moment et comment sont venus, pas plus mes tableaux que mes livres, que mes essais, que mes poèmes ou que mes chansons. C'est très difficile. Non, c'est du temps perdu.
Qu'est-ce qu'on apprend du temps qui passe? Qu'est-ce qu'on apprend de la vie, Serge Rezvani?
Non, je ne crois pas que cette idée que j'ai 95 ans, ou je dis même pour rire, 100 ans moins 5, parce que soyons quand même prêts à continuer, parce que je continue beaucoup en ce moment à écrire, à faire des choses. Je pourrais dire comme Cocteau, j'ai beaucoup semé, c'est en train de lever, c'est un peu le cas en ce moment pour moi, oui. Beaucoup de choses se font à la fois. Et oui, ce que j'ai appris de la vie, vous savez, j'ai eu toute ma vie, c'est une sorte de devise depuis ma jeunesse, et ça a marché. C'est que j'ai toujours su ce que je ne voulais pas vivre, pas ce que je voulais vivre, ce que je ne voulais pas. À ce moment-là, la vie est d'une générosité extraordinaire parce qu'elle est à plein de fantaisie et elle vous offre sans arrêt des choses. Moi, je n'ai jamais rien demandé à personne. Tout m'est venu tout seul, tout le temps.
Pourtant, vous avez traversé des périodes très dures, vous avez traversé la guerre, vous avez traversé des crises, vous avez aussi traversé des drames personnels.
Bien sûr, je pense que j'ai eu des moments culminants de bonheur comme peu d'êtres au monde. Je le dis vraiment en toute conscience, et j'étais toujours conscient. Et j'ai eu des malheurs que je pense que j'ai touché le fond. Mais quand on touche le fond, c'est la métaphore facile, quand on touche le fond, on donne toujours ce coup de pied extraordinaire qui vous renvoie plus haut qu'avant. Oui, ça a été mon cas, toujours. Et encore maintenant, j'ai eu de graves soucis, des graves ennuis, et chaque fois je rebondis vraiment d'une manière... ça finit par être ludique en même temps. Disons, c'est un peu comme au judo, quoi. On se sert de la force du malheur pour réussir autre chose, pour rebondir, oui, pour gagner quelque chose d'autre. Pas gagner, obtenir de la vie quelque chose d'autre, voilà. D'inattendu. Je suis très conscient de ma chance, je suis passionné par ce que je fais en ce moment, et tout, comme toujours. Et puis j'ai des grandes amitiés, des grandes rencontres, des amours, ça continue très fort. Disons que ça avance dans l'étonnement. Je suis très étonné de tout ce qui m'arrive, voilà, tout simplement.
Est-ce que le passé s'invite à chaque moment de votre présent? Comment vous faites? Est-ce que vous vivez avec? Est-ce que vous le tenez à distance?
À vrai dire, il faut que je traduise vos mots. Vous me parlez de la mort. Et donc, oui, finalement, toutes les femmes que j'ai aimées sont mortes. Ma mère est morte très prématurément, donc pour moi, le mot mort et mère se confondent. Ça a été ma toute petite enfance. Et toute ma vie, j'ai vécu avec cette mère morte qui était là, toujours là. Et finalement, j'ai un rapport à la mort, peut-être, qui est, j'ose pas le dire, une sorte d'indifférence envers la mort. Je n'ai pas de culte des morts, du tout. Et c'est vrai, prenant Lula, qui a été 50 ans d'amour, de beauté, de rire et de jouer. C'est une femme extraordinairement intelligente, joyeuse. Elle est toujours là. Elle est toujours là, mais en même temps, elle est plus là. Et disons que si je compare ce que j'en compte, ce que la vie m'apporte aujourd'hui, si j'essaye de ne pas trop la comparer à ce que j'ai vécu avec elle, et dans des grands moments de bonheur, où nous vivions entre Venise et la gare de Fresnel, j'ai toujours vécu dans des lieux magnifiques, par chance aussi, et j'ai une nostalgie du passé, mais j'ai beaucoup plus fort une nostalgie du présent. Et vraiment, ce que nous vivons là, en ce moment, tous les deux, là par exemple, ça y est, ça bascule dans la nostalgie déjà. Mais bon, j'ai un tempérament bizarre, pas tout à fait commun, je pense, parce qu'à vrai dire, je devrais être 10 fois mort de malheur. Je ne peux pas être heureux par moi-même, donc j'ai toujours eu des femmes dans ma vie, et ces femmes, elles me permettent... Je ne peux pas être... Oui, comme je vous l'ai dit, heureux par moi-même, je ne peux être heureux que par le bonheur que je peux donner à une femme, et c'est cette lumière qu'elle me renvoie de son bonheur qui me rend heureux, voilà. C'est un peu laborieux, mais bon, c'est dit.
Et le succès que vous avez eu avec vos chansons, c'est une forme aussi d'amour. Comment vous avez vécu cela?
Écoutez, je vais vous dire une chose très simple. J'ai été très malheureux. J'étais un peintre presque mystique dans ma jeunesse. Bon, j'ai eu beaucoup de succès. J'ai fait des grandes expositions dans des musées, partout. J'étais un peintre très, très, très en vogue à un moment. Et puis, j'ai inauguré Beaubourg, justement. Et après ça, j'ai compris que c'était pas la peine que je continue parce que la marchandisation de l'art, je dis pas de la peinture, de l'art, et puis ensuite, tout le théâtre, souvent bête, souvent stupide, souvent cynique, qui se passe autour de l'art, avec les pays du Golfe, avec la Chine, avec le fric, a fait que je me suis complètement détourné. Je ne pouvais plus être le marchand de mes créations. Donc j'ai arrêté. Les chansons m'ont apporté cela, la possibilité de ne plus avoir à gagner ma vie par la peinture, ne plus être le marchand de mes tableaux, ne plus être soumis à tous ces gens de fric, parce qu'il y en a énormément. Les gens les plus riches du monde, je les ai vus, je les ai fréquentés, et ils sont venus m'acheter des tableaux, et finalement je ne veux plus les voir, je ne veux plus avoir affaire à ce commerce-là. Et par chance, les chansons, parce que chacun, je suis comme un type qui fait la manche un peu, ou bien mes chansons sont des petites putes, elles font le trottoir pour moi. Et donc, j'ai même écrit une chanson sur le tourbillon, ils ont regardé le tourbillon, ils ont le trottoir, qu'elle en avait marre de faire le trottoir pour moi. Donc, c'est vous dire la distance que j'ai par rapport à tout ça. Mais donc, ça me permet d'être libre, tout simplement. Et de, si j'ai envie d'écrire un livre, ben pendant 2 ans, j'écris ce livre. Si j'ai envie de peindre, je peins des séries de tableaux. Mais bon, ils sont destinés à disparaître aussi. Tout ça, c'est le, j'en ai, je sais pas pour combien de temps j'en ai, mais je sais que je suis vraiment très dans le provisoire, croyez-moi.
Est-ce que vous chantez, Serge Rezvani?
Je suis pas le type qui siffle en se rasant, parce que comme j'écris des chansons, voilà, en ce moment, justement, j'ai une chanson qui me poursuit. Nuit et jour, j'arrive pas à la terminer, je la chante tout le temps, mais, disons, je suis pas le peintre en bâtiment qui chante sur son échelle, pas du tout. Mais, non, pour moi, les chansons se sont introduites dans ma vie comme une obsession, quand même. C'est obsédant. Tant qu'une chanson n'est pas finie, c'est très obsédant. Je n'aime pas la chanson française, par exemple, tellement. Bien que j'en ai écrit, et dans les canons de la chanson française, j'ai pas fait exprès, parce que je suis d'origine russe. J'adore chanter comme chantent les Russes ou les Italiens, qui, quand ils sont ensemble, ils se mettent à chanter vraiment ensemble. C'est quelque chose de très, quand vous employez le mot de festif, là, oui. Par contre, la chanson française est plutôt comme, elle est très construite, elle est comme des sketchs. Il y a les gens qui chantent et ceux qui sont assis, qui les écoutent. J'aime pas tellement ça. J'aime bien le partage. Et la musique, pour moi, c'est un partage extraordinaire. Et puis la musique, il y a le silence. C'est malgré moi que j'ai écrit ces chansons, c'est malgré moi qu'elles font le tour du monde, d'ailleurs, c'est vrai, là, c'est un phénomène. Le tourbillon, par exemple, c'est phénoménal qu'elle dure depuis, je sais pas, depuis les années 60, et que ça saute de génération en génération. J'ai des petits-enfants de 4-5 ans qui me la chantent, c'est vraiment émouvant.
Quelle est la chanson, est-ce qu'il y a une de vos chansons que vous préférez?
Une chanson qui est pour moi, qui réunit, c'est une chanson philosophique qu'Anna Karina chante dans Pierrot le Fou, qui s'appelle « Jamais je ne t'ai dit que je t'aimerai toujours, ô mon amour ». Pour moi, c'est ma chanson à tout point de vue. Elle dit tout ce que je pense de la vie, de l'amour. Voilà, cette chanson, pour moi, c'est au-delà de la chanson.
Donc vous allez pouvoir la chanter un tout petit peu.
Si vous voulez. Jamais je ne t'ai dit que je t'aimerai toujours, ô mon amour. Jamais tu ne m'as promis de m'adorer toute la vie. Jamais nous n'avons échangé de tels serments, te connaissant, me connaissant. Voilà, ça dit tout.
Je vous laisse à votre chanson, parce qu'apparemment c'est une séance de travail qui commence au piano.
Un petit peu, je ne sais pas. Avant je composais la guitare, mais ça me fait trop mal aux doigts. Donc j'ai pris un piano, je ne sais pas, je n'ai jamais joué de piano, mais j'arrive à composer sur le piano. C'est plus doux pour les doigts, tout simplement.
Merci beaucoup Serge Rezvani.
Merci à vous, c'est très gentil d'être venu.
I've written a letter to Daddy. His address is heaven above. I've written, dear Daddy, we miss you and wish you were with us to love.
Je ne me rappelle plus, mais sauf que c'était très beau et que j'adore Betty Davis. Faut prononcer Betty Davis. Je suis pas là pour donner des leçons à quiconque. Bon, je l'adore surtout dans L'argent de la vieille. Elle est géniale. Mais j'aime beaucoup également dans Qu'est-il arrivé à Baby Jean? Je ne me rappelle pas qu'est-ce qu'il est arrivé à Baby Jean. Je ne me rappelle pas.
Mais alors, qui se souvient de ce qui est arrivé à Baby Jean? Jean-Michel Frodon, Oriane Jeancourt, Frédéric Michel, je suis ravi de vous retrouver, chers chroniqueurs. Sans doute vous, Jean-Michel Frodon, vous savez qu'il y a une grande rétrospective Bette Davis cet été au Festival de La Rochelle qui commence aujourd'hui avec même un nouveau livre consacré à cette grande star du cinéma américain, écrit par Anne Capucine Blot. Bette Davis, fatiguée d'être moi, c'est chez Capricci. Est-ce qu'on peut dire que c'est la première femme à vieillir avec nous au cinéma, dans le cinéma américain, avoir imposé aussi son corps vieillissant? Jean-Michel Frodon.
D'abord, il faut dire B. Betty Davis, comme a dit Brigitte Fontaine. Parce que moi, je n'adore pas Betty Davis, mais j'adore Brigitte Fontaine, et donc je respecte tout ce qu'elle demande. Non, on peut dire que Liliane Gish ou Gloria Swanson avaient aussi ou déjà été en situation... C'est très juste de se poser cette question-là, c'est-à-dire les femmes qui ont les premières brisé ce mur extraordinairement violent qui interdisait aux femmes de vieillir à l'écran. Même d'une certaine manière, Greta Garbo, à sa manière, elle a un peu laissé apparaître de l'évolution de son âge. Ce n'était pas ces sortes de poupées figées. C'est le sujet de qu'est-il arrivé à Baby Jane.
Tant que vous vous en souvenez.
Oui.
Moi, j'ai pratiquement oublié ce qui s'est... Je sais qu'il y a un drame qui se passe entre deux sœurs, que John Crawford et Bette Davis sont excellentes, et je reverrai avec plaisir ce film, 60 ans après sa réalisation, dans cette belle rétrospective que lui consacre le Festival de La Rochelle.
Mais Brigitte Fontaine a raison, c'est dans L'Argent de la Vieille qu'elle est vraiment géniale. Betty Davis... ayant atteint un certain âge.
Alors, puisqu'on parle des longues carrières au cinéma, je vais reprendre votre liste, Jean-Michel Frodon. Vous avez dressé une liste des réalisateurs qui ont dépassé les 80 balais et qui continuent à faire des films. Fred Wiseman, 93 ans, Clint Eastwood, 92, Alain Cavalier, 91, Polanski, 89, Woody Allen, 87, Ken Loach, 86, Kolimowski, 84, Verhoeven, 84, Coppola, 84, Bellocchio, 83, Soleiman Sissé, 83, De Palma, 82, Miyazaki, 82 et Scorsese, 81.
Bien, cette liste, elle ne dit pas du tout la même chose selon les personnalités, et c'est pour ça qu'elle est intéressante au-delà de cette grande longévité, hein, parce que non seulement ces messieurs, ce ne sont que des messieurs, sont âgés, mais ils tournent depuis très longtemps. Ils ont d'immenses carrières derrière eux, mais avec des parcours très différents. Parmi eux, j'ai mis Suleyman Sissé parce que le Festival de Cannes lui a rendu hommage en lui donnant le Carrosse d'Or, mais en fait, Sissé n'a pas tourné depuis 2015. Elle ne tournera plus, et donc c'est un peu un abus de l'avoir ajouté pour qu'il n'y ait pas que des gens des pays riches, des pays développés, sinon c'est, tous ces gens-là viennent des États-Unis, d'Europe, et un Japonais, Miyazaki bien sûr, mais on a à la fois des gens qui simplement poursuivent paisiblement leur carrière, on pourrait dire presque comme si de rien n'était. Scorsese n'a jamais dit que Killers of the Flower Moon était son dernier film, il a d'autres projets, etc. Il y a des gens qui arrivent à faire finalement un film dont ils sont porteurs depuis très longtemps. C'est le cas de Coppola avec Megalopolis, par exemple. Alain Cavalier, dont on a vu récemment, qui est sorti en salle, ce film magnifique qui s'appelle L'Amitié, qui est encore visible. Et puis, un festival en Normandie rend un hommage avec une intégrale à... Un film spécial qui s'appelle Les Filmeurs à Conteville, dans l'Eure, et où Alain Cavalier est présent peut-être pour sa dernière apparition publique, c'est ce qu'il annonce en tout cas, mais il fait encore un film derrière, il n'arrête pas de faire du cinéma pour autant. Fred Wiseman, qui n'a jamais arrêté et qui est doublement présent puisqu'il est à Avignon, où l'adaptation théâtrale de son film Welfare est portée à la scène par Julie Doliquet dans la grande cour d'honneur du Palais d'Avignon. Et en même temps, il y a la ressortie de Welfare, le film en salle, et il a réalisé un film que nous attendons sur un grand restaurant français. Donc il continue à travailler, il n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Beaucoup de ces gens-là, on attend leur prochain film. C'est vrai de Woody Allen, c'est vrai de Verhoeven, c'est vrai de Brian De Palma.
Et même de Polanski.
Et de Polanski. Et donc il y a une activité, dans certains cas, qui est un peu le point d'orgue d'une longue histoire, et pour d'autres qui est tant que ça va, et tant que j'ai des idées, tant que j'ai envie, et tant que des gens me financent, hein, puisque c'est plus compliqué quand même aussi pour les producteurs. Alors, on peut s'appuyer sur le nom, la notoriété. On n'a mentionné que des très grands noms de l'histoire du cinéma. Ici, ça aide pour trouver des partenaires et des soutiens. Et la longévité aide plus qu'avant, je crois. Personne ne refera, je pense, ce qu'a fait Manuel de Oliveira, qui réalisait encore à 103 ans des nouveaux films et des films sublimes. Mais il y a aujourd'hui un intérêt pour le patrimoine cinématographique, et disons-le, un marché pour le patrimoine cinématographique, qui fait que les grands noms prestigieux, ce sont le cas de tous ces messieurs, Skolimowski n'est pas comme De Palma, mais néanmoins, à l'arrivée, ça veut dire quelque chose pour suffisamment de gens, pour qu'on dise, il va y avoir de l'intérêt, des échos, qui vont permettre de faire vivre ces projets.
Alors, le grand film attendu cet été, d'après vous, Jean-Michel Frodon, et je partage votre avis, c'est bien sûr le biopic qu'a réalisé Christopher Nolan autour du père de la bombe atomique.
Oppenheimer, c'est le nom du monsieur et c'est le nom du film. Oui, bien entendu, nous attendons de toute façon... Moi, mais comme énormément de gens, j'attends tous les nouveaux films de Christopher Nolan. Je ne les adore pas tous, mais c'est toujours un moment important de quelqu'un qui a réussi à des propositions extrêmement personnelles à l'intérieur de l'industrie hollywoodienne. Ils sont pas beaucoup. Quelqu'un comme Scorsese, dans une génération précédente, a été comparable. On attend Christopher Nolan. On attend Kauter Benania. Avec Les filles d'Olpha, qui était un des grands films du Festival de Cannes cette année.
Et le Festival de La Rochelle lui rend hommage, avec une belle rétrospective d'ailleurs.
Absolument. Et on attend Nuri Bilge Ceylan, avec Les herbes sèches. Et donc on a des grandes variétés au cours de ce mois de juillet, de belles propositions de cinéma, assurées pour Benania et pour Bilge Ceylan, et à confirmer dès qu'on pourra voir Oppenheimer.
Et puis, quel livre allons-nous emporter avec nous cet été, si on doit suivre vos conseils, Auriane Jeancourt, et tout en restant dans la thématique du jour, vivre encore intensément.
Écoutez, j'écoutais Jean-Michel et je me disais que les écrivains, ce n'est pas comme les cinéastes, ce serait plus difficile d'en trouver qui arrêtent d'écrire avant de mourir que ceux qui continuent. Je veux dire, c'est un écrivain continue à écrire jusqu'au bout, et je pense à trois très grands noms de la littérature qui nous ont quittés ces derniers mois, Philippe Solers, Martin Amis et Cormac McCarthy, qui tous ont écrit jusqu'au dernier moment et ont écrit de très très beaux livres jusqu'au dernier moment. Donc il est très très rare que les écrivains s'arrêtent d'écrire. On sait qu'il y a le fameux exemple de Milan Kundera, mais c'est très rare. Alors justement, dans cette thématique, moi je voulais vous parler d'un écrivain qui s'appelle Sigrid Nunez. C'est, à mon sens, un des très grands noms de la littérature américaine aujourd'hui. Elle a 74 ou 75 ans. Et elle a connu...
Encore jeune, donc.
Oui, c'est vrai qu'à notre aune, aujourd'hui, c'est une enfant. Mais elle a quand même eu le National Book Award qu'en 2018. Donc, c'est intéressant aussi dans notre discussion d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a eu une reconnaissance tardive. Et c'est souvent le cas aussi de gens qui sont très connus 80, 90 ans. C'est aussi qu'on les a découverts assez tard. Sigrid Nunez, elle a donc eu le National Book Award pour L'Ami, qui était un livre sur le vieillissement. L'Ami, c'est un grand écrivain new-yorkais. On peut reconnaître Philippe Wass, on peut en reconnaître d'autres, qui a appartenu à la grande époque de la littérature américaine, des Updike, des années 70-80, et qui se retrouve au début du 21e siècle un peu démuni. Démuni par la société telle qu'elle va, démuni par la société dans ses changements, je n'ai pas besoin de vous dire la société américaine, le féminisme, le wokisme, comme on dit. Démuni aussi parce qu'il n'a plus l'énergie et l'ampleur de ses 40 ans. Et donc L'Ami, cette figure qu'elle écrit avec beaucoup d'empathie, avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup d'admiration, eh bien va finir par se suicider. Et donc c'est un très très beau roman. Aujourd'hui, elle publie un livre qui n'est pas très loin du sujet, qui s'appelle « Quel est donc ton tourment ?»
Chez Stock.
Chez Touche les deux, aux éditions Stock. Et là, c'est l'histoire d'une femme, c'est l'histoire de la mort d'une femme, une intellectuelle aussi. Sigrid Nunez appartient à ce petit monde intellectuel new-yorkais. Et donc, elle parle beaucoup de gens intellectuels. Et donc, une intellectuelle qui va mourir. Elle n'est pas si vieille, mais elle est atteinte d'un cancer. Et elle décide de procéder à une euthanasie. Et donc, elle va demander à une amie, qui est donc la narratrice, de l'accompagner pendant les dernières semaines. Et quel est donc ton tourment? C'est un titre emprunté à Simone Veil, à une citation magnifique de Simone Veil que je vais vous lire, qui est « La plénitude de l'amour du prochain, c'est simplement d'être capable de lui demander quel est donc ton tourment ?» Et donc c'est un livre sur la mort, c'est un livre sur la fin de la vie, mais c'est aussi un livre sur la possible empathie jusqu'au bout.
qu'elle est donc en tourment de Sigrid Nunez et chez Stock, et on termine par une bande dessinée, Les Temps Retrouvés. Bonjour Frédéric Michel.
Bonjour Toufik.
Alors, cette bande dessinée, on reste toujours avec ce thème, le grand âge.
Alors le grand âge, c'est un exercice assez difficile pour moi, parce qu'il y a plein de bandes dessinées qui traitent de la vieillesse, même du quatrième âge, à la fois drôle, dramatique et nostalgique, mais pour une fois, j'ai choisi une romance. Donc, Les Temps Retrouvés de Kei Fuji et Kokoro Hirai chez Kiun.
Donc, manga.
Un manga, oui. Alors, en fait, le sujet principal, c'est il n'est jamais trop tard pour refaire sa vie. Et les deux personnages principaux, Ipei et Kotoko, des veuves, vont nous montrer qu'on peut refaire sa vie, même âgé. Voilà. Donc, on suit pendant plusieurs pages, c'est une série en deux tomes, leurs aventures assez rocambolesques parfois, parce qu'ils sont rejetés par une partie de leur famille et surtout par leurs enfants, parce que ça se fait pas de se remarier à cet âge-là, on pense encore à sa femme. Et finalement, il y aura une forme de happy end où ils vont racheter une ancienne maison, qu'ils vont reconstruire ensemble, et ils vont vivre leur fin de vie sous les meilleurs auspices.
Vous rappelez le titre de cette bande dessinée, Les Temps Retrouvés, c'est ça?
C'est ça, de Kei Fuji et de Kokoro Hirai.
Et c'est chez Kiun. Merci beaucoup Frédéric Michel, merci Auriane Jeancourt et merci Jean-Michel Frodon. Bel été à vous.
Affinité culturelle. Toufik Hakem, à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
Émission préparée avec Marceau Vassy, à la prise de son Jean-Guy Lamège et à la réalisation Vincent Abouchard.